Un souffle d'air ramène l'odeur de mélèzes et de sapins. Ici, des lambeaux de couleurs rayonnent. Chromatisme ocre, brun, vert. D'autres peintres s'imposent. Courbet, Signac, Sisley. Courte échelle.
Une émission littéraire de Benoît Aubierge.
Et de Marie-France Rigel.
Si vous aimez la littérature, la poésie, les témoignages, les récits,
les sciences humaines, la philosophie et le jazz, cette émission est déjà la vôtre. Bonjour, vous êtes sur votre émission Courte échelle à la littérature, RDL 68, soit 103.5, avec à la technique Chris. Aujourd'hui, nous recevons une femme auteure, une femme écrivain, Fariba Achroudi, pour un livre étonnant. Je ne vous donne pas son titre parce que ma première question reposera précisément sur le titre, le mystère de ce titre, un titre qui m'avait attiré. Quelques mots sur l'auteur. Fariba Achroudi est née à Téhéran. Elle est arrivée en France en 1964. Elle est fille d'un illustre savant iranien. Elle est archéologue de formation et nous verrons plus tard d'autres qualités de cette dame. Elle est finalement aussi acharnée, une militante acharnée des droits de l'homme. Bonjour Fariba.
Bonjour à vous Benoît.
Bonjour. Et donc nous nous sommes rencontrés au Salon du Livre de Colmar. Et c'est le titre de votre livre qui m'avait intrigué. Alors c'est vrai, nous avions échangé quelques mots comme ça, en sympathie, comme on le fait souvent avec d'autres auteurs. Mais votre livre m'a intrigué par son titre, La gelée royale. Et voulez-vous nous expliquer ce que contient cette gelée royale ?
Elle est censée contenir, enfin elle est censée être une crème miracle. Produite par les cosmétiques irréels de la famille Alencourt. Donc, c'est une... voilà, je l'ai appelée gelée royale parce que effectivement, on dit que la gelée royale est déjà une substance qui fait miracle. Et comme je voulais faire une parodie, justement, un peu de notre société, d'apparence, de folie, de l'immortalité, etc. Et qu'au début, on avait pensé à un autre titre que je ne mentionnerai pas parce que ça va dévoiler quelque part l'intrigue du livre. Et justement, à cause de ça, mon éditeur m'a dit « peut-être pas » et j'ai pensé à la gelée royale et ça a été accepté tout de suite. Voilà.
Alors, je précise que votre livre a été publié par l'éditeur Encre d'Orient.
C'est bien ça.
Et dans votre roman, alors, il y a une héroïne qui s'appelle Delphi, qui est une journaliste avec de la pugnacité. C'est elle qui enquête pour dénoncer ce mal. Et elle part à la recherche du secret de fabrication, donc peut-être aussi à la recherche du secret de... Comment dirais-je ? De ce qui ne va pas dans cette substance.
Écoutez, justement, elle va à la recherche du secret, effectivement, de fabrication de cette crème qui, au début, en tout cas, quand ça a été lancé, effectivement, est très, très efficace. Et comme elle... et puis, d'un seul coup, la crème est interdite de vente parce que la famille Alencourt se déchire sur... avec des tas de justement avec des tas de d'implications financières, etc. Et elle se dit c'est bizarre, une crème qui marche tellement et des milliardaires qui arrêtent la fabrication, il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Donc elle a un flair comme ça, effectivement, en disant ça doit être autre chose, tout ce qu'on nous raconte, il doit y avoir quelque chose derrière tout ça. Donc effectivement elle va, parce qu'en plus, bon, c'est quelqu'un qui est contre cette course au rajeunissement perpétuel, à toute cette, justement, la société consumériste et la société d'apparence. Donc, disons qu'elle s'ennuie également dans sa rédaction parce qu'elle a été mutée de la section fait divers à la section santé, beauté, etc. Et donc elle cherche effectivement, elle cherche quelque chose qui l'excite. Et elle va à la recherche de savoir comment la crème a été fabriquée.
Le ton du livre m'a fait penser à une phrase de Voltaire. C'est la suivante. Il disait qu'il fallait écrire avec une plume trempée dans le vinaigre et la fine pointe dans le miel. Or, votre roman est très incisif. Je n'ai pas ressenti ni lu de temps mort. C'est un travail, on dirait, au galop.
C'est drôle ce que vous dites parce qu'effectivement, je l'écris très rapidement. D'abord, c'est merci beaucoup. Évidemment, comparaison n'est pas raison. Ça ne veut pas dire que je suis Voltaire, vous l'avez cité, mais ça me fait extrêmement plaisir parce que si vous l'avez cité en pensant à mon roman, de toute façon, ça veut dire qu'effectivement, ça ne vous a pas laissé indifférent, d'où d'ailleurs cette interview. Mais effectivement, d'abord, je l'ai écrit un peu dans mon exil, nouvel exil, parce que je suis déjà une exilée ici, même si je me sens pas exilée en France, mais disons que déjà les écrivains sont exilés partout. Moi, à cause des événements iraniens, je me sens exilée ici. Après, je me suis exilée en Nouvelle-Zélande, quasi de façon, volontaire. Bon, j'avais une bourse d'écriture, hein, je vais pas pleurer sur mon sort, mais c'était effectivement à l'autre bout du monde. Et j'ai parié de terminer ce livre pendant mon séjour, ce qui n'était pas... J'ai écrit ce livre en moins de 6 mois à peu près. Et, j'ai comme je l'ai écrit très rapidement, je voulais que ça se lise aussi très rapidement, donc... effectivement, j'ai essayé à ce qu'il n'y ait pas de vide. Ça rappelle un peu le roman d'avant et le roman d'avant d'ailleurs, j'allais dire, parce que mes 3 derniers romans ont été écrits sur ce ton assez, assez, disons, de la dérision et à chaque fois, parce que j'avais envie d'entraîner le lecteur à travers la dérision à des choses beaucoup plus graves, quoi. Alors j'espère l'avoir réussi, je ne sais pas, c'est au lecteur de juger.
Oui, alors là, vous faites, je pense, référence à un roman qui s'appelle « Le deuxième imam est une femme ».
Le douzième imam est une femme et j'ai épousé Johnny à Notre-Dame de Sion. Les deux sont sur la même tonalité. Johnny est publié au Seuil et le douzième imam... au feu édition Koutoubia qui n'existe plus.
Oui, parce que justement, là, on essaie d'avoir la coloration et le ton du livre et sa rapidité d'écriture, donc sa rapidité de lecture. Ça me fait penser d'ailleurs à un reportage. Quelqu'un qui aurait pour plume une caméra.
Ah ben c'est très aimable. c'est ce que j'aurais voulu en tout cas. Bon, beaucoup de lecteurs m'ont écrit en me disant que ce livre serait un super film, etc. Oui. On l'a vu, on le voit. Oui. Moi, je l'ai écrit dans cette optique. Maintenant, si c'est réussi, ben, j'en suis ravie. Et vous êtes vous-même écrivain, vous écrivez. Je suis ravie que vous le dites, mais j'étais tellement snobée par les journalistes parisiens que... De toute façon, les échos de mes lecteurs et puis maintenant vous, journaliste et journaliste, j'allais dire, qui s'y connaît, journaliste littéraire, ça ne peut que me rassurer. Parce que de temps en temps, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi effectivement la presse me boude? Mais alors sans être paranoïaque, je me dis, il y a peut-être d'autres raisons que la simple... Que des simples, disons, considérations d'ordre littéraire.
Oh, écoutez, peut-être que la presse médiatique parisienne vous boude. En tout cas, sur Le deuxième imam est une femme, c'est un livre qui a été salué par le philosophe Bernard-Henri Lévy.
D'ailleurs, celui-là, on en a beaucoup parlé.
Bah, il taxe votre roman. Je parle du douzième imam est une femme. Il taxe votre roman d'être très drôle et insolent.
Oui, il est très insolent. D'ailleurs, à ce sujet, je dois vous dire, j'ai été époustouflée la première fois que je reçois un email direct de l'Iran et d'un responsable d'une mosquée que je traite de mosquée de superstition, là où c'est censé, où le 12e imam est censé se cacher. Et ce monsieur me dit dans une longue lettre que d'être irrespectueux envers les croyances des gens n'est pas être un intellectuel ou une intellectuelle. Alors que moi, je ne suis absolument pas irrespectueuse envers les religions ni la croyance des gens. Ce livre ne dénonce absolument pas l'islam ou n'est pas contre l'islam. Il dénonce les abus qu'on fait des religions et notamment les mollahs iraniens et puis contre la superstition. Voilà, parenthèse fermée. Donc le 12e imam a eu le malheur avec le 12e imam, c'est que l'édition a complètement explosé, il y a eu des problèmes, donc les gens ont eu du mal à trouver mon livre pendant un certain temps et maintenant, il y a d'autres problèmes avec Koutoubia, mais bon, passons. Ça c'est.
On va en revenir à la gelée royale.
Oui, et, je préfère.
et à l'héroïne Delphi. Mm-hmm. Donc, journaliste, on a dit pugnace, qui part à la recherche du secret de fabrication de cette fameuse gelée royale, mm-hmm. qualifiée de crème miracle. Et l'éditeur met d'ailleurs en exergue que c'est une potion magique qui à la fois déride les peaux en enflammant les esprits. Et là, vous touchez peut-être, certainement d'ailleurs, vous touchez à une certaine manière de mondialisation que vous dénoncez, une sorte de tyrannie sur, par exemple, l'éternité, la jeunesse éternelle, que sais-je. Mmh. Est-ce que dans ce roman, est-ce que vous avez voulu mettre en exergue justement ces deux, trois points qui sont un peu des travers purement occidentaux, je trouve, d'ailleurs.
Oui, vous savez, j'ai toujours l'impression qu'en Occident, depuis un certain temps déjà, depuis que justement depuis que l'individualisme s'est déchaîné, parce que une dose d'individualisme, il en faut. Tout est une question de juste milieu. Vous voyez, quand on va dans des excès, de toute façon, à mon sens, on se plante. Mais depuis que l'individualisme est devenu le cœur de nos sociétés occidentales, le culte de l'apparence et le déni de la mort quelque part me semble assez dérisoire ici, vous voyez. Et de là va la folie qu'on a par rapport au temps. On n'a jamais de temps. Moi, je suis fascinée de voir dans ce pays. Et j'en souffre aussi moi-même. Hein. Il m'est arrivé, même avec vous, quand je vous ai dit, écoutez, aujourd'hui, j'ai pas le temps. Calmement, vous m'avez dit, vous savez, 2 minutes, c'est 2 minutes. Et vous avez raison, vous aviez raison. Cette angoisse de manquer de temps, comme si on voulait pas voir la mort. Et le culte de l'apparence. Alors, ça a commencé évidemment aux États-Unis, ce bodybuilding où il faut absolument être canon jusqu'à la fin de sa vie. Après, il faut pas avoir de rides. Après, ça devient grotesque que ça soit chez les femmes, mais encore plus chez les hommes. Quand un Berlusconi, il fait ce qu'il fait. Enfin, c'est quelque chose qui me semble risible, disons, depuis des années. Et en plus, les moyens pour arriver à ça, alors là, la mondialisation fait des ravages parce que rien n'arrête, justement, rien n'arrête nos rêves, j'allais dire, débiles et enfantins, quitte à effectivement ne pas considérer, mais aucune éthique, étant donné que la fin justifie les moyens. Et pour donner un exemple, vous savez, l'idée de ce livre m'est venue, ça fait un bout de temps, de toute façon, ça tournait dans ma tête, un livre contre la mondialisation, les aspects négatifs, hein, parce que la mondialisation, ou l'universalisme de la mondialisation a du bon, on en reviendra peut-être dessus. Mais l'idée me tournait en tête, comme ça, et un jour, je tombe sur un article dans Le Monde, donc très sérieux, sur les assassinats successifs au Pérou, dans des endroits, dans des villages complètement reculés, de paysans péruviens, pour leur graisse humaine. Et cette graisse, les enquêteurs ont su que cette graisse arrivait jusqu'en Europe dans des laboratoires de cosmétiques. Alors, ça n'a pas été nommé, le laboratoire, je ne sais pas lesquels, mais j'ai été effarée. Alors déjà, j'ai été très choquée, je suis toujours choquée par le nombre d'animaux qu'on tue pour les tests, etc. Maintenant, on passe aux hommes. Donc là, j'ai pensé à mon histoire. Effectivement, ce que je dénonce dans mon livre n'est pas pire, hein, n'est pas pire que ce qui s'est passé dans la réalité.
Alors, vous avez fait mention de la famille d'Alencourt, qui détient ce laboratoire.
Qui détient ces cosmétiques, oui, mondialement connus.
Voilà.
Irréel. Alors, j'ai appelé irréel, justement, parce que pour dire que la jeunesse éternelle est tellement irréelle que, justement, tout ce que j'entends, ce qu'on entend à la télévision et tout ça, bon, voilà. Oui. Pardonnez-moi, je vous ai coupé.
Non, pas du tout. C'est qu'aussi bien... Page 82, vous notez « L'Afrique était au cœur du tourment des Alencourt. L'Afrique, terre de prédilection de la plus grande ONG du groupe, donc d'Alencourt. L'Afrique qui, selon les actionnaires, profitait des largesses du groupe, comme l'affirmait la presse bien pensante. » Alors, il y a quand même dans votre travail d'écrivaine une place assez large pour l'Afrique, et ce, à travers une femme de ménage africaine dont on mentionne la sagesse ensorceleuse. Alors, pourquoi l'Afrique est-elle au cœur de ce livre aussi ?
Mais écoutez, peut-être parce que je ne connais pas l'Afrique, c'est le seul continent, l'Afrique noire, que je ne connaisse pas, et j'ai très envie d'y aller, et en même temps, justement, c'était un défi pour moi, c'est la première fois que j'écris sur... un continent que je ne connais pas, une culture que je ne connais pas forcément. Je suis beaucoup plus asiatisante, si je puis dire. Je connais beaucoup plus l'Asie. J'ai voyagé des dizaines de fois en Asie, un peu partout, sans être spécialiste. Mais quand je parle de l'Asie, bon, je pense que j'ai une certaine connaissance. Je suis habilitée, disons, de parler de l'Asie, du Moyen-Orient, des États-Unis. L'Afrique, pas du tout. C'était un défi à moi-même, en me disant, bon, ben voilà. Et puis, l'attirance que j'ai pour l'Afrique noire, j'ai envie de connaître ce continent. Autre problématique que je voulais soulever, c'est un peu ce qui se passe ici en France depuis qu'on a voulu avoir un ministère d'immigration, depuis qu'il y a pas mal de problèmes avec tous nos problèmes viennent des étrangers. C'est quand quelqu'un, un journaliste que vous connaissez sûrement, que je nommerai pas parce que j'ai peur de le nommer, mais quand on dit que là tous les trafiquants de drogue sont soit des Arabes, soit des Noirs, etc., etc., j'ai voulu également dénoncer ça, parce que un de mes personnages, qui est effectivement d'origine africaine mais français, personne ne le prend pour un Français. Et le nombre de fois où on demande aux Africains, aux Noirs français, pardonnez-moi, vous voyez, même moi, lapsus, de quelle origine êtes-vous ? Alors, quand il dit « je suis français », oui, mais... Mais il n'y a pas de oui, mais je suis français. C'est comme moi quand on me dit mais de quelle origine ? Alors moi je le dis parce que je suis très très fière de mes origines, mais les Africains aussi. Hein. Mais quand on m'embête trop, je dis je suis française, basta, un point c'est tout.
Parce que dans votre livre, il y a quelque chose qui ressort de votre personnalité. Et là, votre personnalité à l'antenne, on commence à la bien percevoir. Je parle non seulement de votre serviteur, mais je pense de nos auditrices et de nos auditeurs. C'est que vous ne mâchez pas vos mots, quand même.
Non, du tout. C'est le seul, vous savez, c'est la seule liberté qui me reste. C'est le seul bien qui me reste, pardonnez-moi, ma liberté. que j'estime, c'est très présomptueuse, pardonnez-moi, mais que j'estime inaliénable. Mais j'ai payé un prix tellement fort pour cette liberté que maintenant je me dis, pour rien au monde, je ne... Et c'est vraiment assez grisant parfois de pouvoir dire ce que vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez. Alors bon, j'essaie de rester poli, j'essaie de rester... Mais de temps en temps, quand je pète les plombs, comme dit Monsieur Jacques Lang, je pète les plombs et je le dis. Je le dis net et clair. Quand j'ai à dire des choses et que j'ai la chance de temps en temps d'être publié, je le dis. Quand j'ai écrit il y a un certain temps dans Le Monde, une tribune, parce que j'en avais vraiment assez de ces tergiversations des socialistes, parce que je vote à gauche toujours, j'ai voté socialiste jusqu'à aujourd'hui, je l'ai dit de façon, et de lendemain matin, j'ai eu pas mal de coups de fil, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que j'en ai eu assez. Et j'ai très peur que, justement, les choses allant telles quelles, qu'on finisse par avoir l'extrême droite en France, voilà.
Alors là c'est peut-être quand même de la fiction. Hein.
Oui, bien sûr, espérons-le. Bah oui.
Tout de même, il faut savoir aussi garder son cœur et sa raison.
Bien sûr. Mais regardez un peu ce qui se passe ailleurs, mais pour revenir à la littérature, idem, je pense que la littérature est, enfin pour moi, hein, j'ai horreur de ces termes, littérature engagée, tout être est engagé, on est engagé pour... mais pour moi, la littérature devrait faire réfléchir, alors ça peut le faire, ça peut faire réfléchir de 10 000 façons, mais si la littérature n'est pas là pour, de temps en temps, interpeller le lecteur, vous savez, si c'est qu'un autre moyen, justement, là aussi, vous voyez, notre société mondialisée ne veut que s'amuser, qu'oublier, oublier la mort, éternelle jeunesse, s'amuser, Eh bien non, de temps en temps, il faut réfléchir parce que justement, le monde, hélas, n'est pas le monde de Walt Disney et il se passe des choses catastrophiques et on le voit tous les jours. Pour avoir accès à la démocratie, il y a un jeune homme qui doit se sacrifier en s'immolant. Je parle d'ailleurs de la Tunisie dans ce livre, ça m'a fait rire parce qu'effectivement, j'ai toujours refusé d'aller en Tunisie tant que le clan Ben Ali était là. Et Delphi, ma journaliste, comme vous le savez, est envoyée en Tunisie pour aller dans un des innombrables thalassos de la Tunisie. Elle les massacre également dans les textes qu'elle ne peut pas publier. Mais elle est tellement enragée qu'elle écrit des textes qu'elle ne publie pas et elle est choquée de savoir qu'elle doit aller dans un endroit où elle doit rentrer. Elle doit dire du bien. Moi aussi je suis un peu choquée, donc je le dis par sa bouche.
Alors vous faites référence à la Tunisie, mais dans votre livre, page 44, vous dites « Au pays d'Hannibal, où on embastille les journalistes qui font leur boulot ». Donc mais finalement, justement... vous avez ça veut dire que vous connaissiez assez bien, et même peut-être très bien, ce qui se passait au niveau de la liberté de la presse dans
bien
ce
sûr.
Pays.
Bien sûr.
Donc on ne peut pas dire que vous étiez en avance, vous étiez à l'heure en fait.
Oui, oui, comme beaucoup d'autres journalistes ici, bien sûr. Et j'ai été fascinée par ce qui s'est passé, ravie, enchantée. J'espère que ça ne va pas dégénérer et qu'effectivement, je ne le pense pas d'ailleurs en Tunisie. Je suis un peu plus inquiète pour l'Égypte. Mais vous voyez, moi, ça me serre le cœur parce que nous, on a eu cette révolution qu'on espérait démocratique il y a 30 ans. Et aujourd'hui, il y a encore un an, la jeunesse iranienne était dans la rue et on l'a massacrée. Ça me serre le cœur, mais si ça peut aider d'autres peuples, on s'en sortira aussi en Iran, et bien tant mieux, vraiment.
Avant de faire une première pause musicale, je vais lire quelques phrases de votre livre pour donner un ton comme ça.
Merci.
Elle était vautrée sur un transat, la mer d'une désolante monotonie lui sortait par les yeux, une mare bleue, stagnante, lisse, sans la moindre ride. Sur la table attenante, près d'une assiette de fruits déconfits et d'une bouteille d'eau à moitié entamée, était entassée pêle-mêle une pile de magazines, des crèmes solaires, des livres dans le dernier Fred Vargas qu'elle venait d'acheter. Il devait être midi. Le soleil du zénith lui chauffait les méninges. Rien que l'idée du massage qui l'attendait la déprima. Première pause musicale avec Jerry Mulligan, The Shadows of Your Smile, pour toutes les femmes qui nous entendent. Bon là. RDL 68 103.5, courte échelle à la littérature, un problème technique, pardon. Fariba, vous êtes toujours avec nous ?
Oui, pardon. Absolument.
Désolé.
Je vous en prie.
Donc, nous sommes sur votre livre. On a abordé un peu le fond, la forme, le pourquoi, le comment. La Gelée Royale, donc c'est un roman édité par l'éditeur Encre d'Orient. Ma question suivante, c'est, vous semblez quand même extrêmement motivé, peut-être, on dit acharné, mais c'est presque virulent en fait, votre manière de vouloir défendre à corps et à cri Les droits de l'homme, les droits de la femme, les droits de l'enfant, ça, c'est quand même quelque chose de très marqué chez vous, de très marquant. Et c'est vrai qu'on pourrait rester sur le roman, mais en définitive, dans votre roman, il y a aussi toute cette exaspération sur le manque de respect de la liberté. Et le manque de respect de l'expression, le manque de respect du libre choix, de la libre parole. Et comme je vous ai à l'antenne, après tout, vous êtes romancière certainement, mais d'une certaine manière, compte tenu des événements qui se passent ici et là, on a cité l'Égypte un peu rapidement, et nous avons cité, grâce à vous, la Tunisie, mais il se passe quelque chose quand même. Actuellement dans certains pays arabo-musulmans, la volonté, le désir absolu d'avoir accès à la liberté. Et je pense que là, votre regard m'intéresse.
Écoutez, bien sûr, comme vous le dites, la liberté, mais également et avant tout, la dignité humaine. La liberté est une part de cette dignité humaine. Mais la dignité humaine me semble plus appropriée, si vous me le permettez, étant donné que même avec la liberté, si vous n'avez pas un minimum pour vivre décemment, c'est même cette liberté-là, pour moi, n'est pas une liberté entière. Quand je passe très souvent dans certains quartiers de Paris, notamment le mien, et que je vois les SDF, dehors, dans une température de moins 3, moins 2, je vous assure, j'ai réellement le cœur serré à chaque fois. Et je suis ravie d'avoir cette capacité d'outrance, cette capacité de révolte encore à mon âge, et de voir que ça ne s'est pas effiloché le long des ans. Alors, vous ajoutez à ça, déjà ici, il y a des tas de choses qui ne vont pas. Déjà ici, quand Mamacha, justement, dans mon roman, parle des banlieues à Delphi en lui disant, bah, viens ici, tu verras un peu ce qui se passe ici. Déjà ici, il y a des la liberté n'est pas accordée à tout le monde dans la mesure où cette liberté n'est pas une liberté digne. Comment pouvez-vous être libre quand vous n'avez rien à manger? C'est pas possible. Donc vous êtes esclave quelque part, parce que vous êtes obligé de toute façon d'accepter n'importe quel travail, n'importe quelles conditions, etc. Deuxième chose, après, il y a effectivement une liberté essentielle, j'allais dire philosophique, que l'on refuse dans des systèmes dictatoriaux et idéologiques, que ce soit l'idéologie de l'islam, que ce soit l'islamisme, hein, pas l'islam en tant que religion privée, que ça soit le stalinisme, etc. Et ça va loin, vous savez, ça va très loin dans la mesure où, à ce moment-là, vous même si, alors là, vous pouvez avoir de quoi manger, mais vous n'avez pas la liberté de penser. C'est aussi catastrophique. Mmh. Aussi catastrophique. Donc vous voyez, il faut se battre sur plusieurs plans. Il faut être vigilante sous différents angles, et c'est extrêmement difficile. Je n'ai pas de solution miracle, hein. Pendant des années, je pense que je vous l'avais dit, ou je sais pas, à un autre journaliste, comme je voyage beaucoup en Inde et j'ai beaucoup voyagé en Chine, maintenant beaucoup moins, je n'ai jamais su quel système je préférais. La Chine avant l'ouverture, hein. J'ai beaucoup voyagé en Chine communiste avant l'ouverture, c'est toujours une Chine communiste, mais avec des aspects effrayants de la mondialisation et d'un capitalisme sauvage. Là-bas, il n'y avait peut-être pas de gens qui mouraient de faim, mais la plupart des gens vous paraissaient comme des moutons, parce que justement, on leur donnait un minimum vital et il fallait surtout pas qu'ils pensent et qu'ils rouspètent, etc. En Inde, il y avait beaucoup de gens qui mouraient de faim, et en revanche, c'était une vraie démocratie. En revanche, il y avait une presse fabuleuse. En revanche, les gens pouvaient dire ce qu'ils voulaient.
En Inde, pardon, je vous coupe un peu, je vous en prie. Mais en Inde, vous savez très bien qu'il y a le problème des castes aussi.
J'allais venir là-dessus. Mais même là, il y a une lutte contre ça, une lutte démocratique qui est... Alors, lutter contre des millénaires de de coutume, c'est très difficile. Mais la lutte existe. En Chine, la lutte n'existait pas et n'existe toujours pas. Le prix Nobel ne peut pas venir chercher son Nobel. Alors, en Iran, parlant de mon pays, la religion d'État a fait des horreurs dont on n'a pas idée. Ça continue, ça continue. Il ne faut pas oublier, au début, je le disais dans la partie où vous avez parlé justement du livre, c'est quand même la jeunesse iranienne qui a donné l'exemple à toute cette jeunesse du monde. Ça me fend le cœur. Simplement, cette jeunesse qui est venue, cette jeunesse belle, éduquée, fabuleuse, qui est venue dans la rue en demandant « Où est mon vote ?» Il ne disait même pas « Va-t'en Khamenei » ou « Mort à » ou « Mort au Mollah » ou « Où est mon vote ?» Au sein de ce régime, cette jeunesse désirait un tout petit peu de respect, c'est-à-dire contre les jusqu'au boutistes. Cette jeunesse avait voté pour les moins jusqu'au boutistes et pour les gens qui étaient pour l'ouverture et qui étaient au sein du régime. On les a massacrés, on les a violés, on les a torturés. Il y a encore des dizaines qui sont en prison. Jamais je ne pourrai baisser les bras tant qu'ils sont là. Et au prix, à un prix très élevé, je vous l'ai dit, un prix très très élevé. Je paye toujours ce prix. Mais peu importe, c'est comme ça, c'est comme ça. Avant moi, des grands hommes et femmes qui m'inspirent ont suivi ce chemin. Et c'est comme ça que l'Occident est arrivé à la démocratie. Donc à nous de lutter pour nos pays, effectivement.
Mais ce qui est intéressant dans vos réponses, c'est que précisément, on sent le pourquoi d'une plume aussi, j'allais dire musclée, c'est-à-dire avec de l'énergie. Je parle de l'énergie d'esprit, je ne parle pas d'énergie musculaire. On sent une volonté de faire passer un message qui contient beaucoup de messages, en définitive. Parce que, bien sûr, ça dénonce la mondialisation telle que vous en avez tracé quelques aspects là tout à l'heure. Mais en définitive, vous êtes aussi, on dirait, sceptique quant au travail des ONG en général.
Oui et non. Les ONG, vous savez, je me méfie beaucoup des ONG des milliardaires. Je devrais peut-être pas, parce qu'il y a des milliardaires qui ont des ONG, tant mieux qu'il y en a. Mais je m'en méfie quand même un peu, parce que je me dis, des gens qui font que justement ce système est en train d'aller, notre capitalisme qui est un capitalisme industriel et qui avait ses bons aspects est devenu un capitalisme financier. On est en train on essaye vraiment de le maintenir, ne peuvent pas, s'ils voulaient vraiment penser aux autres, ils essayeraient de changer le système. En revanche, il y a des ONG avec rien du tout en Iran en ce moment, en Tunisie justement, au Maroc, il y a des ONG faites par des gens, dans la vraie vie, qui n'ont pas de millions, mais qui ont un cœur fantastique, qui ont des idées, ou par exemple, vous savez, le prix Nobel indien qui a pensé à des banques de... C'est les banques populaires, quoi, qui donnent. Ben, ça, non, je dis bravo, je suis pour. Moi, j'ai une petite association que j'ai du mal à remettre sur pied en ce moment, mais avec rien du tout, on a aidé des dizaines de réfugiés iraniens qui sont devenus de bons citoyens français aujourd'hui. Nous en sommes fiers. Donc non, je me méfie pas de toutes les ONG, je me méfie des milliardaires en général un peu.
Quels sont vos liens, quels sont vos liens avec l'Iran actuellement?
Des liens de cœur, des liens de réseau. Je me renseigne beaucoup, j'ai des gens que j'appelle, j'ai des amis que j'appelle, comme je suis rentrée deux ou trois fois ces derniers trois ans avec beaucoup de problèmes, certes, mais je suis rentrée, que je compte re-rentrer. Je garde mes liens et je pense que mon combat doit se faire sur place également. C'est très facile à l'étranger de dire, voilà, moi je vais maintenant, je le dis, devant les services secrets, dans les yeux dans les yeux, la dernière fois. Et chaque fois, je suis convoquée par les services secrets, je leur dis ce que je pense. Peut-être que la prochaine fois, ils me mettront en prison, peut-être pas, mais en tout cas, je ne changerai pas d'un iota, ni de mes convictions, ni de ma façon d'être, ni ma lutte. Ma lutte a changé de camp. J'étais engagée radicalement, politiquement, je ne le suis plus, je ne le serai plus jamais. Ma lutte sera via ma plume et via des organisations non gouvernementales. Mais ma lutte est toujours là.
Alors, il y a une question qui me vient tout naturellement, parce que vous êtes une femme de plume, c'est vrai, et vous maîtrisez parfaitement le français, très très bien, remarquablement.
Et donc, c'est très aimable à vous.
Et donc, je me... Attendez la question, Fariba. Elle arrive.
Mais déjà, merci pour cette première partie.
C'est que... Pour ce goût de la liberté, est-ce que dans, par exemple en Iran, est-ce que sur l'éducation, est-ce que l'école, l'instruction, les études supérieures, est-ce que ça c'est ouvert quand même?
Oui, tout à fait. La jeunesse iranienne est très très éduquée. Le niveau de l'instruction a beaucoup baissé et puis l'idéologie a essayé de faire ses ravages. Certainement, il y a eu des effets, hein, surtout au début de la révolution, quand l'embrigadement idéologique des jeunes, c'était l'horreur. C'est comme ça qu'ils ont pu envoyer quand même 40 à 60 000 écoliers sur les fronts comme chair à canon. Néanmoins, avec l'accès à l'enseignement supérieur pour les femmes, et l'obligation de l'école pour tout le monde, il y a eu effectivement une jeunesse éduquée. Là aussi, il faut mettre un bémol parce que, eu égard les problèmes financiers, économiques, c'est toujours les femmes qui trinquent et les filles. Par exemple, dans une famille nombreuse, surtout à la campagne ou dans les provinces, s'il y a 4 enfants, bah, c'est les filles qui quittent l'école le plus rapidement. S'il y a des enfants qui doivent quitter l'école à cause des problèmes économiques. Mais oui. Et puis l'Internet. Alors là, c'est le bon côté de la mondialisation. Il n'y a pas que des mauvais côtés. Là aussi, il ne faut pas avoir tout noir ou tout blanc. Sans les moyens de communication modernes, aucune des révolutions actuelles qu'on est en train de vivre en direct, ni en Égypte, ni en Tunisie, ni en Iran, il y a un an, ça a été réprimé, n'eût été possible. Donc oui, l'éducation et les moyens technologiques, les Iraniens, la jeunesse iranienne en a accès assez largement.
Bon, ça m'intéresse beaucoup parce que nous avons souligné, enfin en tout cas, les médias ont souligné précisément sur le peuple tunisien que c'était un peuple éduqué, très cultivé, ce qui est vrai d'ailleurs, très bien formé. Et que finalement, c'est peut-être grâce à... Enfin, je pense que les peuples qui sont les plus en difficulté, ce sont ceux qui sont plongés dans une manière d'ignorance, un formatage des consciences, et qui n'ont pas accès, ne serait-ce qu'à l'idée de la dignité dont vous avez parlé en début d'émission.
Alors, absolument.
Comment n'ont-ils pas conscience de ce manque de dignité, d'intégrité morale, physique?
Vous savez, je pense que de plus en plus le monde en a conscience, justement grâce aux moyens technologiques. Je pense que maintenant, quand vous allez même dans les pays les plus pauvres, l'Internet est là. Alors tout le monde n'y a pas accès, mais ça va se démocratiser, ça va aller de plus en plus vite. Et je pense que justement, c'est un des l'espoir de l'avenir viendra de cette jeunesse qui aura accès à ça. Parce que en plus, comme vous le savez aussi bien que moi, sinon mieux, c'est que c'est la jeunesse qui ose. Hein. Il faut avoir d'ailleurs cette part de jeunesse quand je vous dis que je suis fière de ma capacité de révolte. C'est que j'ai gardé une part de jeunesse, je pense. Hein. C'est que je n'ai pas ce conservatisme qu'on attrape avec l'âge comme un virus. J'ai pas peur de mon avenir, qu'est-ce que je veux devenir, si je tombe malade, non. Mais la jeunesse n'en a absolument pas conscience, comme rappelait votre jeunesse, je me rappelle de la mienne. C'est vous foncez, vous y allez, vous pensez pas. Et cette énergie, c'est cette énergie vitale qui donne sens au changement, justement, parce que vous vous dites, on est en plus beaucoup plus radical quand on est jeune, soit tout, soit rien. On n'est pas conservateur. Et je pense que ça viendra de là. Et plus cette jeunesse s'éduquera, justement, plus elle aura accès au monde libre, et ben plus elle se mettra debout. Donc moi, je reste très, très confiante, surtout dans les pays, justement, non démocratiques ou dans les pays en voie de développement, je ne sais pas comment les appeler, où la grande majorité de la population est jeune. En Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, il n'y a que nos peuples vieillissants européens qui justement, et cette jeunesse un peu gâtée, qui reste un peu sur ses acquis, malheureusement. Alors, les vieux conservatisme et les jeunes, je vous dis, un peu trop gâtés pour comprendre que la démocratie n'est pas une injection et ça reste, c'est pas un vaccin et jusqu'à la fin de votre vie, vous l'avez, non.
Alors, avant la deuxième pause musicale, je veux rappeler que votre ton de voix explicite pourquoi votre roman « Iran, les rives du sang », ce livre a reçu le prix littéraire des droits de l'homme en 2000, qu'il avait été publié par les éditions du Seuil.
Oui.
Donc, grâce à vous, grâce à votre voix, votre ton, votre vocabulaire, votre véhémence, nous savons pourquoi vous avez mérité ce prix. Deuxième pause musicale, c'est un pianiste de jazz, c'est très perlé, c'est très beau. Ça s'appelle Flair, le pianiste s'appelle Jermaine Landsberger, et il y en a pour 5 minutes à peu près. À tout de suite. Voilà, je vous avais dit que c'était magnifique. Donc
très
c'est Flair, German Landsberger. Donc nous sommes avec notre auteur en direct de Paris, Fariba Atchroudi, pour son roman La gelée royale. Et j'aimerais encore donner dans ma voix quelques colorations de votre livre. J'aimerais lire quelques passages encore.
Avec plaisir.
Et ça fait suite à l'échange que nous avons eu avant la deuxième pause musicale. Je cite. Je vous cite. Certes, l'humanité était encore très jeune. Elle avançait à quatre pattes, mais tout n'était pas sombre, pas plus ici que là-bas. Mais en attendant d'accéder à la voie du juste milieu, exercice d'équilibriste, il fallait continuer le combat des idées. Et j'ai l'impression quand même que ce corps de texte donne assez bien votre tempérament, vos buts, vos idées, la manière dont vous voulez les offrir à vos lecteurs, bien que vous semblez dire que ce n'est pas tellement la recherche de lecteurs qui vous préoccupe, c'est le courage, la persévérance d'écrire. Est-ce que je me trompe ?
Non, non, je dirais l'un va avec l'autre. Non, non, vous ne vous trompez pas. Évidemment, tout écrivain veut être lu, sans ça on n'écrirait pas. Mais disons que, effectivement, je me dis c'est pas ça qui devrait, en tout cas, ni m'arrêter, ni me décevoir si jamais ben, c'est pas lu ou c'est pas soutenu par X ou Y ou Z ou la presse ou etc. Mais effectivement de pouvoir continuer, d'avoir la chance de pouvoir écrire, ce qui est pas toujours évident, parce que quand on veut vivre de son écriture, à la rigueur, je dirais, la recherche de lecteurs, peut-être non, mais de pouvoir vivre de ma plume, si ça c'est mon rêve, pour pouvoir écrire. Mais je m'arrange toujours.
Mais est-ce que vous avez l'impression que avec l'écriture, on peut changer un peu le monde ?
Ah ben écoutez, moi en tout cas j'y crois, parce que pour moi beaucoup de choses ont changé comme lectrice. Vous le savez d'ailleurs, avant d'être écrivain, on est lectrice forcément. Et moi j'aimerais d'ailleurs rester lectrice. De temps en temps, j'ai le manque de temps me pèse beaucoup plus parce que je ne lis pas. Et vous voyez, le manque de temps me pèse autant quand je ne lis pas que quand je ne peux pas écrire. Je pense que la littérature peut changer pas mal de choses. Je pense que la pensée en général, alors ça peut être à travers la littérature, ça peut être à travers le théâtre, la danse, l'art en général, peut vraiment changer les choses, oui.
Et vous avez aussi une phrase que j'ai envie de citer. Alors c'est au cours d'un dialogue. C'est un homme qui parle à une femme. Alors vous nous direz qui, parce qu'il faut que vous participiez à votre émission, Fariba.
Je vous en prie.
Donc, le propos qui est tenu par un homme, le secret, ma chérie, murmura-t-il, aspirer au beau et au bon n'est qu'un premier pas. Pour rendre la beauté et la bonté, il faut d'abord être bon et devenir beau.
Oui, c'est le père de Delphi qui le dit. Un père qui lui a beaucoup manqué parce que c'était un utopiste qui est parti quand elle était toute jeune à Cuba pour poursuivre ses chimères, d'après elle, mais qui est quelqu'un de très beau et très bon au fond, parce que effectivement, alors c'est un peu mon père, c'est un peu les hommes que j'aime, que j'ai aimés, et c'est vraiment ce que je crois. C'est très très difficile, vous savez, je suis loin d'être bon et d'être beau, loin. Mais j'aspire à ça, j'aspire et comme vous dites, justement, ce que vous appelez ma véhémence, moi je l'appelle ma révolte, mon feu, n'est pas forcément bon conseil toujours. Donc c'est un exercice de tous les jours. Et la voie du juste milieu, je suis également loin, mais loin, loin de l'avoir atteint.
Parce que là, dans ces phrases que j'ai pu lire à l'antenne, il y a des mots-clés. Je vais en prendre quelques-uns. Il y a humanité, jeune, sombre, juste milieu, équilibre, combat des idées, écrire, une certaine idée du monde, beau, bon, beauté, bonté. Donc finalement, votre humanité, vous ne la voyez pas sans bonté, sans beauté, sans gratuité, sans loyauté finalement.
Non, absolument pas. Justement, vous voyez, pour revenir à ce que vous disiez au début, pourquoi cette gelée royale ? Cette gelée royale n'est que cette apparence de beauté qu'on voudrait atteindre et qu'on n'atteint jamais, justement, parce qu'on est tellement figé à l'apparence. Vous savez, j'ai une phrase que qui est un peu bateau, hein, que je répète souvent. À force de vouloir paraître, l'être, il n'y a plus d'être jusqu'à disparaître, vous voyez, c'est ça. Donc, moi j'apprécie beaucoup l'esthétisme, hein, j'apprécie beaucoup que ce soit les hommes ou les femmes beaux, je les regarde et je trouve ça magnifique. Mais s'il n'y a pas, si ça ne va pas au-delà de cette apparence très très vite, ils me paraissent anodins ou ils me paraissent. Je n'arrive pas. À l'inverse, j'ai vu notamment, j'ai une amie grecque qui est poétesse et qui a eu une polio de l'enfance, et comme elle dit elle-même, elle dit « je suis monstrueuse », mais elle est d'une beauté intérieure et elle a des poèmes d'une telle beauté que je vous assure, je pense que je ne suis pas la seule, vous voyez plus son physique qui a été totalement déformé à cause de la polio. Et vous ne voyez que la beauté de cette femme qui est magnifique, magnifique tellement elle est habitée, tellement son âme apparaît aussi bien dans son art, ses textes sublimes que dans sa vie, que dans ses gestes.
Alors à la fin de cette émission, parce que nous allons nous quitter, l'heure est passée, j'ai envie de dire que grâce à ce livre et à la conversation que nous avons pu avoir sur ce livre, eh bien finalement, on n'a plus trop envie de vendre ou d'acheter un rêve d'éternité, mais on a plutôt envie de travailler à plus d'humanité d'abord.
Moi en tout cas, j'ai envie, oui, moi en tout cas je m'efforce à ça. C'est ça qui me donne la force de vivre, parce que j'ai beaucoup, beaucoup perdu dans ma vie et j'ai beaucoup souffert. Et si je transforme cette souffrance en une certaine force, c'est que j'espère encore en cette humanité. Sans ça, je vous assure, il y a de quoi se suicider.
Bon, Fariba, courage.
Alors, merci.
Je conseille votre livre. Donc, c'est La gelée royale, c'est un roman. L'auteur, Fariba Achroudi, c'est édité aux éditions Encre d'Orient. C'est un livre qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies de Colmar et d'ailleurs. Merci d'avoir accepté notre invitation, Fariba.
Merci à vous.
Bonne soirée.
Mille merci, vous aussi.
À bientôt.
Et les éditeurs, les auditeurs aussi.
Merci beaucoup pour eux. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Un souffle d'air amène l'odeur de mélèze et de
souffle
sapin.
D'air amène l'odeur de mélèze.
Ici des lambeaux de couleurs rayonnent.
Ici des lambeaux de chromatisme
rayonnent.
Ocre,
brun,
chromatisme,
vert,
ocre.
Brun, d'autres peintres vert. S'imposent.
D'autres Courbet, peintres s'imposent.
Signac,
Sisley,
Courbet,
Signac,
Sisley. Courte échelle.
Une émission littéraire de Benoît Aubierge.
Et de Marie-France Rigel.
Si vous aimez la littérature, la poésie, les témoignages, les récits,
les sciences humaines, la philosophie et le jazz, cette émission est déjà la vôtre.